VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 15 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, tension autour des résultats du plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, après les élections locales et régionales du week-end.
Le Burundi accuse la Belgique d'être responsable de l'assassinat en 1961 du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance.
En Gambie, lancement aujourd'hui d'une commission Vérité, Réconciliation et Réparation, plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh.
En Algérie, 5 généraux ont été placés dimanche en détention provisoire pour des malversations présumées.
Affaire Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien porté disparu, Riyad rejette les menaces de sanctions.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, bagarre devant le siège de la commission électorale indépendante, tir de grenades lacrymogènes, cortège de protestations. La tension est montée dimanche à Abidjan, où les résultats de l'élection municipale au plateau n'ont toujours pas été annoncés officiellement, mais font l'objet de contestations. Par ailleurs, 2 personnes sont mortes dans un affrontement entre forces de l'ordre et partisans mécontents d'un candidat battu près de Séguéla, dans le centre du pays. Ces partisans ont dressé un barrage et ils ont refusé de le lever. Il y a eu un affrontement avec les forces de l'ordre. 2 personnes ont été tuées, a indiqué à l'AFP, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire.
La Croix-Rouge a appelé dimanche les autorités nigérianes à obtenir la libération de 2 travailleuses humanitaires enlevées en mars par Boko Haram, l'ultimatum fixé par le groupe djihadiste qui menace de les exécuter étant sur le point d'expirer. Il reste moins de 24 heures avant la date limite, a déclaré le CICR dans un communiqué appelant à agir d'urgence. Le comité international de la Croix-Rouge a lancé cet appel pour les 2 humanitaires un mois après qu'une sage-femme enlevée avec elle le 1er mars dans le nord-est du pays a été tuée par ses ravisseurs.
Plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh, la Gambie lance aujourd'hui une commission Vérité, Réconciliation et Réparation pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime. Mais un éventuel jugement de l'ancien militaire qui a régné sans partage pendant 22 ans sur ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest paraît encore chimérique. Présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, Lamine Cissé, elle comprend 4 femmes, dont la vice-présidente Adélaïde Sossé, et représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays.
Le Burundi accuse la Belgique d'avoir commandité l'assassinat en 1961 du héros de l'indépendance et membre de la famille royale, le prince Louis Rwagasore. Selon Bujumbura, Bruxelles a aussi sa main dans les différentes crises ayant secoué le Burundi depuis cet assassinat. Jean-Roger Bion.
C'est la première fois que le gouvernement burundais accuse officiellement la Belgique d'être responsable de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, risquant de détériorer encore davantage les relations entre les 2 pays. L'assassinat est survenu quelques mois avant l'accession du Burundi à l'indépendance. Le véritable commanditaire qu'est le Royaume de Belgique, puissance coloniale de l'époque, qui était farouchement opposé à l'indépendance immédiate du Burundi, n'a pas encore rendu de compte, dénonce le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Le gouvernement envisage de mettre sur pied une commission technique ad hoc pour enquêter sur les assassinats de Rwagasore et des siens, ajoute-t-il, faisant référence à ses 2 enfants morts en bas âge quelques mois après sa disparition. Le gouvernement accuse également la Belgique d'avoir une part de responsabilité dans les différentes crises politico-ethniques qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance.
L'hebdomadaire sud-africain Sunday Times a présenté hier à ses lecteurs des excuses inédites pour de fausses coupes. Le journal avoue avoir été manipulé dans des affaires qui avaient secoué le gouvernement de l'ex-président Jacob Zuma. Abdourahman Dia.
Le rédacteur en chef du journal, Bongani Sikoko, admet que quelque chose s'est mal passé dans la collecte de l'information et le compte-rendu de plusieurs affaires. Dans un long mea culpa publié dans les colonnes du Sunday Times, il affirme que le journal a commis des erreurs et s'est laissé manipuler par des personnes qui avaient des motivations cachées. Dans sa colonne, M. Sikoko évoque d'abord une série d'articles publiés à partir de 2011 sur un prétendu escadron de la mort de la police accusé d'exécution sommaire dans la province du KwaZulu-Natal. Des dizaines de membres de cette unité avaient été arrêtés et suspendus, puis finalement blanchis. Cette affaire avait nourri une série de purges dans la police et la justice. Le rédacteur en chef concède aussi que le Sunday Times s'est lourdement trompé en rapportant la création par l'actuel ministre Pravin Gordhan d'une unité spéciale du fisc chargée d'espionner des hommes politiques, dont l'ancien président Zuma. À l'époque, titulaire du portefeuille des finances, M. Gordhan avait été remercié par le président Zuma en 2017. Au pouvoir depuis 2009, Jacob Zuma a été poussé à la démission en février par son parti, le Congrès national africain au pouvoir, en raison notamment des nombreuses allégations de corruption qui pèsent sur lui.
En Algérie, 5 généraux ont été placés dimanche en détention provisoire pour des malversations présumées. Ils ont récemment été limogés de hautes fonctions dans la hiérarchie militaire. Nous retrouvons Jean-Roger Bion.
Ces généraux, dont l'ex-commandant de la gendarmerie nationale et l'ancien directeur des finances au ministère de la Défense, ont comparu hier devant un juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, à 50 km au sud d'Alger. À l'issue de leur comparution, la justice a décidé de les placer en détention provisoire. Ils ont été auditionnés pour la troisième fois en 15 jours pour le grief d'infraction aux consignes générales de l'armée portant sur des faits de dilapidation de fonds publics et de mauvaise gestion. Ces 5 généraux avaient été mis à la retraite dans le cadre d'une vague de limogeage ayant touché ces 3 derniers mois la haute hiérarchie militaire. Parmi les autres gradés limogés figuraient également les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des forces de défense aérienne du territoire, le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée et le contrôleur général de l'armée. Ces limogeages au sein de l'armée, longtemps considérés comme faiseuses de roi en Algérie, avaient suscité de nombreuses questions à 8 mois de la présidentielle de 2019, marquée par l'incertitude autour de la candidature du président Bouteflika, âgé de 81 ans, à un 5e mandat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Arabie saoudite promet de riposter à d'éventuelles sanctions, une réaction qui fait suite à la menace de châtiment sévère proférée par le président américain Donald Trump en cas d'implication avérée de Riyad dans la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. De nouveau, Abdourahmane Dia.
Dans un entretien à la chaîne de télévision CBS, le président américain Donald Trump a pour la première fois estimé possible l'implication de Riyad dans le sort de M. Khashoggi, disparu le 2 octobre, date de son entrée dans le consulat de son pays à Istanbul. Si Riyad est responsable, il y aura un châtiment sévère, a dit le président américain. Son conseiller économique Larry Kudlow a souligné que le président américain était très sérieux. Hier, la bourse de Riyad a subi une baisse de plus de 7%, sa plus grave dégringolade en 3 ans, avant de clôturer en baisse de 3,5%. Riyad a dit rejeter entièrement toute menace ou tentative de l'affaiblir, que ce soit via des menaces d'imposer des sanctions économiques ou l'usage de pression politique. Si des sanctions sont appliquées, le royaume répondra avec de plus grandes sanctions, a prévenu un haut responsable saoudien. L'économie du royaume a un rôle vital et d'influence pour l'économie mondiale, a-t-il déclaré.
Le président Trump estime par ailleurs que son ministre de la Défense, Jim Mattis, pourrait être l'un des membres clés de son administration à quitter prochainement le gouvernement américain. Dans une interview au programme 60 Minutes de CBS News, M. Trump, un républicain, a précisé qu'il n'a aucune indication que M. Mattis va partir, tout en ajoutant, je cite, « Il se pourrait qu'il parte, je crois que c'est une sorte de démocrate, si vous voulez la vérité ». Le président américain a qualifié son chef du Pentagone de « gars bien », disant « on s'entend très bien, il pourrait partir, à un certain moment tout le monde part, tout le monde, les gens partent, c'est ça Washington ».
Des dizaines d'officiels ont quitté d'une façon ou d'une autre, par démission ou par limogeage, pendant les 21 mois de M. Trump à la Maison-Blanche. Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, étant la dernière en date. Selon les observateurs, M. Mattis, un général à la retraite, n'a pas toujours été d'accord avec M. Trump ou certains faucons de son administration, dont John Bolton, le conseiller en matière de sécurité nationale.
En Syrie, des djihadistes sont restés dans une zone qu'ils devait évacuer avant ce lundi matin où il compte poursuivre le combat. Il fragilise ainsi l'accord russe turc pour Idlib, destiné à éviter un assaut meurtrier du régime du président Bachar al-Assad contre les derniers bastions insurgés dans son pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le coût du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Singrobo-Awati s'élève à environ 93 milliards de francs CFA. Le démarrage des travaux est prévu pour le premier trimestre 2019. Ce projet, qui inclut un programme d'électrification rurale de 11 villages, va créer un millier d'emplois directs et indirects et contribuer à diversifier le mix énergétique du pays. La mobilisation financière du projet d'interconnexion électrique Mali-Guinée a été bouclée avec l'obtention de 9 milliards de dollars supplémentaires auprès de la Banque mondiale. L'infrastructure, dont le coût total a été évalué à 82 millions de dollars, a également bénéficié de l'appui financier de deux banques africaines. Le projet consiste en une ligne électrique des villes de Ndirékoré en Guinée et de Sanankoroba au Mali. Le marché nigérian des mini-centrales solaires d'une capacité maximale de 1 MW s'évalue à 20 milliards de dollars selon une étude du groupe nigérian Economic Summit Group. Le développement de ce marché permettrait de réaliser des économies de l'ordre de 6 milliards de dollars par an. En installant 10 000 mini-centrales d'une capacité de 1 kW, 14% de la population pourrait être électrifiée avec un retour sur investissement de l'ordre de 3 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la qualification pour la CAN 2019. La quatrième journée a eu lieu hier avec deux matchs.
Oui, et dans le groupe K, la Zambie se trouve en bien mauvaise posture après avoir perdu 2-1 en Guinée-Bissau, devenant quatrième et dernière de ce groupe en attendant le match de demain entre la Namibie et le Mozambique. Par contre, le Kenya, vainqueur 3-0 de l'Éthiopie dans le groupe F, a pris une option sur la qualification avec ce succès. Les Harambee Stars prennent seule la tête du groupe avec 3 points d'avance sur leur victime du jour et 4 sur le Ghana et la Sierra Leone qui ont vu leur match annulé suite à la suspension de la Fédération Sierra Leonaise par la FIFA.
La suite de la quatrième journée de ces éliminatoires, c'est aujourd'hui.
Une journée qui pourrait révéler les noms des premières équipes qualifiées pour la phase finale du tournoi prévu du 15 juin au 13 juillet 2019 au Cameroun. On peut noter la Guinée et la Tunisie, leaders de leur groupe avec 9 points. Les deux équipes auront besoin d'une victoire en déplacement, respectivement au Rwanda et au Niger, pour valider leur qualification. Même cas de figure pour le Sénégal et Madagascar, leader du groupe A avec 7 points chacun, soit 4 points d'avance sur le troisième, la Guinée équatoriale, qui se déplace à Antananarivo pour affronter les Malgaches. De leur côté, les Lions de la Teranga seront dans un difficile déplacement à Khartoum pour y affronter le Soudan.
D'autres équipes vont essayer de se rapprocher plus de la qualification.
Cette qualification tend les mains à l'Afrique du Sud et au Nigeria qui vont probablement disputer les deux premières places du groupe E. Les deux formations, après leur nette victoire de la troisième journée contre respectivement les Seychelles 6-0 et la Libye 4-0, joueront demain en déplacement pour les 3 points. L'Égypte et la Côte d'Ivoire, deuxième de leur groupe, auront aussi l'occasion de se rapprocher de la qualification en cas de victoire au Swaziland pour les Pharaons et en Centrafrique pour les éléphants. Et puis l'Ouganda se rapproche aussi en tête du groupe L avec 7 points, les Crânes joueront pour une victoire à Lesotho afin d'être sûr de terminer à l'une des deux premières places de ce groupe.
Élisée, c'est une quatrième journée qui pourrait compromettre les chances de qualification de certaines équipes.
Effectivement, Idrissa, la RD Congo, battue à domicile samedi par le Zimbabwe en tête de ce groupe G, doit réagir pour garder sa deuxième place qu'elle partage avec son voisin du Congo, Brazzaville, qui sera aussi dans un difficile déplacement au Libéria. Défaite interdite aussi pour le Burkina Faso au Botswana. Les étalons sont à égalité de points 6 avec l'Angola et la Mauritanie qui s'affrontent à Nouakchott.
Le reste du programme de cette quatrième journée.
Dans le groupe D, le Bénin va essayer de faire un bon résultat contre l'Algérie et maintenir sa chance de qualification devant la Gambie et le Togo qui s'affrontent à Banjul. Le Burundi, dans le groupe C, tentera de faire mieux à domicile que le nul de Bamako contre le Mali. Dans ce groupe, après avoir fait le nécessaire contre le Soudan du Sud à domicile, le Gabon doit confirmer à Djouba. Et puis, après sa victoire dans des conditions l'expédition controversée contre les Comores, le Maroc tentera de se rapprocher plus de la qualification dans le groupe B en cas de succès à Moroni.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La grève des enseignants se poursuit à Béni. Ils exigent le retour de la sécurité dans la région pour reprendre les cours. Cette grève a été déclenchée après le massacre d'au moins 18 civils dans un quartier de Béni, suivi d'une série des manifestations des élèves du lycée. Charlie Kassereka, envoyé spécial de VO Afrique à Béni pour ce reportage.
C'est depuis le jeudi dernier que la grève a été lancée. Tous les établissements scolaires dans la région de Béni restent fermés. Les deux grands syndicats des enseignants du Congo, à savoir SIECO et SINECAT, ces derniers réunissant tous les enseignants des écoles conventionnées catholiques, en soutien aux élèves et enseignants tués lors du dernier massacre ici à Béni. Ils exigent la sécurité avant toute reprise des cours. Palou Kougislin, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo à Béni.
Nous sommes fatigués, trop c'est trop. L'État nous a toujours promis des résolutions, mais ces résolutions restent théoriques. La situation continue à devenir grave. C'est pour cette raison que nous avons déclenché une grève. Nous ne pouvons pas mettre la vie d'autres enfants à danger, même des enseignants.
Les parents d'élèves dépassés par les multiples tueries soutiennent la mesure et appellent les autorités à réagir le plus vite possible. Kavira Kamate, la trentaine, mère de quatre enfants, explique.
Vraiment, nous soutenons les enseignants depuis le massacre. Vraiment, nous ne savons pas où est-ce que nous allons finir. Et avec la vie que nous menons en ville, nous ne savons pas comment nous allons chaque fois payer les enseignants. Nous sommes menacés à ville comme aux chiens. Comme les autorités aussi ne peuvent pas aussi se taire, je pense bien qu'elles aussi vont prendre courage de chercher une solution.
Dans un communiqué de presse sorti ce week-end, les professeurs d'université de Béni viennent aussi de reporter la rentrée académique qui devra intervenir ce lundi 15. Selon ces communiqués, la situation sécuritaire actuelle dans la région ne permet pas un bon climat d'enseignement. La rentrée académique est donc reportée de 2 semaines. Les maires de la ville de Béni, M. Nyoni Bwanakawa, par crainte de sacrifier toute une année d'études, projettent de rencontrer les corps enseignants afin de trouver une solution.
Il est vrai, la décision du corps du personnel enseignant est consécutive à la situation sécuritaire qui prévaut au niveau de la ville de Béni. Je compte rencontrer le personnel enseignant dans les très prochains jours, discuter avec eux profondément quant à ce qui concerne la question, mais je crois que de la rencontre que nous aurons avec eux pourra surgir une solution, étant donné que le calendrier scolaire a toujours été très contraignant.
Cette grève arrive au moment où la région de Béni connaît une situation sécuritaire volatile, mais aussi confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola depuis août dernier et qui a déjà fait au moins 130 décès. Charlie Kassereka, VOA Afrique, Béni.
Campus Faso, la plateforme d'inscription en ligne sur les campus burkinabés, connaît des difficultés d'absorption des futurs étudiants. Cette innovation majeure, censée faciliter l'inscription et l'orientation des nouveaux bacheliers, rencontre des obstacles. À quelques heures de la clôture prévue des inscriptions, quelques 7000 étudiants étaient encore à la peine pour s'inscrire. De Ouagadougou, Issa Napon.
Tatiana est une nouvelle bachelière burkinabé. Elle a choisi l'anglais comme filière à l'université de Ouagadougou. Mais sa volonté de s'inscrire au plus vite sur la plateforme connaît un coup d'arrêt dans le processus, constate-t-elle avec amertume.
Tu rentres sur la plateforme, de un, tu n'entends pas bien. Et même quand tu essaies d'écouter, tu ne sais pas c'est quoi qui doit se passer avant quoi. C'est un peu confus. Et puis la connexion actuellement, là, ça balance. S'ils avaient dit ça même avant qu'on compose les examens, là, on pouvait se préparer psychologiquement.
Tatiana fait ainsi partie de ces milliers de étudiants en province mais aussi en ville qui n'ont pas eu la chance de voir leurs efforts sur la plateforme couronnés de succès. La faute à la qualité d'Internet, mais pas que, soutient André, un autre nouveau bachelier rencontré devant les services d'orientation de l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo.
Bien que pour pouvoir avoir créé le compte là au niveau de là-bas, ça s'est bloqué. J'ai tenté plusieurs fois, j'ai pas pu résoudre le problème. J'étais là hier, bon, je suis revenu aujourd'hui encore pour voir. Malheureusement, les bureaux sont fermés.
Au niveau de la section spéciale en charge d'administrer la plateforme d'inscription Campus Faso, On est conscient de ces difficultés qui entachent la bonne marche de ce nouvel outil, reconnaît Brahima Konaté, responsable de la plateforme Campus Faso.
Les difficultés majeures qui nous parviennent actuellement, c'est surtout ceux qui ne se rappellent plus de leur mot de passe sur la plateforme et aussi ceux qui ne se rappellent pas de leur mot de passe Gmail. Tout simplement parce qu'ils ont demandé les services d'une tierce personne qui a utilisé son compte personnel pour créer plusieurs comptes pour les étudiants en question. C'est qu'on les demande seulement. Ils nous envoient leur nouvelle boîte Gmail. Nous, on met à jour tout simplement leurs dossiers sur la plateforme. 36 665 qui ont pu générer leurs dossiers, qui ont pu être identifiés. On est 14, c'est sûr que le monde ne sera pas sur la plateforme. Et de toute façon, on fera le point où la directrice générale de l'enseignement supérieur, ils vont voir quelle est la solution qu'il faut mettre en place.
Face à ces soucis, les étudiants avancent des propositions.
Je suggère qu'ils reprennent l'ancienne méthode. Ils n'ont qu'à recevoir les dossiers comme ce qu'ils faisaient les années passées là. Comme ça, ça va nous arranger.
J'aimerais bien qu'on prolonge d'abord la date, afin que ceux qui n'ont pas pu, qu'ils puissent se conformer. Et deuxièmement, j'aimerais bien qu'il y ait des formations avec qui on peut prendre contact facilement. On l'appelle et puis on explique le problème pour qu'on puisse résoudre, parce que vraiment, c'est compliqué.
La balle est désormais dans le camp des autorités de l'enseignement supérieur qui pourront analyser et prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire et absorber l'ensemble des bacheliers de l'année 2018. Issa Nabo Ouagadougou, VOA Afrique.
En Guinée, malgré des textes et engagements pour la préservation des droits des enfants, le pays reste confronté à des problèmes de respect des droits des tout-petits. À Conakry, plusieurs ONG se préoccupent de leur sort. Parmi elles, le centre Tiabala, qui donne une nouvelle vie aux enfants de la rue par la musique. Reportage de Zakaria Kamara, notre correspondant en Guinée.
Momo a rendez-vous à la Cité de la Solidarité. Il vient prendre les nouvelles de Mamoudou, un garçon qui a arrêté de faire la mendicité il y a de cela 3 ans. Son père, lui aussi mendiant, se souvient du jour où son fils a quitté la rue. Ils sont venus me demander de leur confier mon fils. J'ai accepté, mais avec des conditions. Je leur ai dit de ne pas apprendre la percussion à mon enfant. Ils m'ont compris. Et l'ont amené chez un réparateur de pneus. Nous laissons Mamoudou pour rejoindre les autres enfants du centre. Aujourd'hui, ils apprennent entre autres à souffler dans les flûtes. Des mélodies tirées de l'histoire de la Guinée, des techniques de coups de langue, la maîtrise des doigtés, voilà ce que propose Mamadi Mansaré.
Bon, écoutez maintenant, c'est Kizikaba qui a donné la flûte là à mon grand-père pour appeler chaque matin, pour appeler le griot.
L'ancien flûtiste des célèbres ballets africains de Guinée est heureux de s'investir pour permettre à la nouvelle génération de prendre la relève.
Je suis en train de prendre les enfants pour que je voie mon relève. Parce que je ne sais pas. Demain, je vais mourir. Là, c'est le flûte que je connais. Si je ne pas prendre quelqu'un qui va me remplacer, c'est très difficile. Je n'ai pas demandé d'argent. Ce que je demande, pour faire du courage, pour apprendre la flûte.
15 élèves sont formés dans ce centre de réinsertion. Des enfants qui sont arrivés ici, chacun avec une histoire particulière. Fatoumata Souma vient de Fria, à 136 km de Conakry.
Mon père nous a quittés. Il est décédé. Ma mère s'est mariée avec le grand-frère de mon père. Tout en se battant avec le frère de mon père. Maintenant, sa sœur a décidé d'envoyer ma mère à côté d'elle. Attends, ma mère aussi m'a dit qu'on va aller ensemble parce qu'il n'y avait personne à qui je vais rester. Elle m'a dit de venir avec elle. Je suis venue. Maintenant, elle avait en train de vendre les mangues sauces. C'est moi qui lavais les bols pour elle. C'est moi qui lavais ses habits, tout, avec mon petit frère. Le centre m'a beaucoup fait parce que j'étais avec ma mère. Je ne faisais rien.
Tous ces enfants vivaient dans des situations difficiles, malgré les moyens limités et en plus des cours, le centre assure 3 repas par jour. Véronique Lama est chargée de psychosocial.
Le recrutement au centre ici, depuis sa création, nous passons dans les différentes familles. Mais avant d'aller, on fait des enquêtes pour savoir s'il y a des enfants déscolarisés, des enfants en situation difficile, des enfants maltraités et puis des enfants qui sont au bord de la route. Et même des enfants dans les marchés.
Au début, Véronique et Momo avaient une ambition d'offrir une insertion aux enfants mendiants. Depuis quelques Pourtant, le centre Tiabala est ouvert à tous les enfants en souffrance. Momo Silla, directeur du centre.
Cours d'un atelier de formation avec les étudiants, on a essayé d'avoir une idée de créer une compagnie de théâtre. Au cours de cette idée, on est venu rassembler les étudiants, on est venu à la maison des jeunes de Taouya et puis on s'est mis à répéter là-bas. Après ça, comme il y avait les mandjans autour de la maison des jeunes, alors on a eu des idées de se mettre à apporter quelque chose. Au fur et à mesure, on a recruté plein de professeurs grâce à la contribution de nos partenaires là, Sylvain Lou, qui est aux États-Unis, qui nous aide beaucoup à apporter beaucoup de choses dans notre centre ici.
Six professeurs donnent différents cours dans ce centre qui a besoin de moyens financiers afin de faire d'anciens enfants de la rue des vedettes de demain. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Tchad, le gaz butane qui se substitue au bois de chauffe se fait de plus en plus rare dans les points de vente. Une situation qui fait suite à un malentendu entre le gouvernement et les Chinois en charge de l'exploitation de la raffinerie de N'Djamena au sujet de la gestion de cette raffinerie. Le point avec André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Cette situation est une conséquence de l'application de l'accord signé en 2012 entre le gouvernement tchadien et la société chinoise en septembre dernier. Le directeur général adjoint de cette raffinerie, Seyd Idriss Déby, sur instruction du ministre du Pétrole, aurait tenté d'appliquer le texte en responsabilisant des personnes non qualifiées au moment où son directeur général était en congé. Mécontents, les techniciens chinois ont arrêté la production pendant plusieurs jours. Pour le ministre du Pétrole, Boukhar Michel, les deux parties ont trouvé déjà la solution à leurs différends.
Après plusieurs négociations, nous sommes arrivés aujourd'hui à dire à la population que le problème est résolu. On va reprendre même avec la formation double cabine, un chinois, un tchadien au niveau de chaque poste. Vous avez vu, c'est le chargement de GPL qui est en train d'être fait. C'est pour répondre aux besoins de la population.
Répondre aux besoins de la population, c'est une obligation pour un État responsable. Mais cette assurance semble être une déclaration politique, alors que la structure des prix du gaz montre bien que les consommateurs tchadiens sont les plus asphyxiés par le prix de l'aval pétrolier, car toutes les taxes, y compris le stockage de sécurité, qui d'ailleurs n'existe pas, sont comprises dans le prix de recharge. Quelques consommateurs expriment au micro de VOA Afrique leur désarroi.
S'il n'y a pas l'argent comme quoi, on nous laisse le gaz pour qu'on peut nous préparer à manger. Ça fait aujourd'hui 3 jours que je n'ai pas mangé.
On empêche que le bois n'arrive à N'Djamena. Mais pourquoi est-ce que les bouteilles de gaz maintenant ne sont pas bien remplies?
Autant j'ai dit, nous utilisons le fagot qui est interdit. Après le fagot, c'est le charbon. Aujourd'hui, c'est le tour du gaz qui est pratiquement invisible dans les différents points de vente. Pour le moment, nous ne savons quoi faire et où aller.
Pour le président du syndicat des grossistes et revendeurs de gaz, Randa Bongo, les consommateurs ne vont retrouver le sourire que lorsque le gap créé par la rupture de production pendant 12 jours sera comblé.
À N'Djamena, il y a une estimation d'à peu près 20 tonnes de gaz par jour. Mais maintenant, la raffinerie ne met à la disposition que 14 tonnes. Donc, il y a un déficit de 6 tonnes par jour, puisque la raffinerie ne produit pas encore jusqu'aujourd'hui. C'est sur le stock qui était resté là qu'ils sont en train de livrer aux marketeurs.
Selon des sources proches de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, il faut moderniser le secteur en installant les dépôts stratégiques et sécuritaires pour pallier la pénurie dans les jours à venir. Il faut aussi combattre les criminels économiques qui pratiquent le système de transvasement des bouteilles de gaz, indique la même source. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.